Il est 7h.
C'est une situation incroyable et inimaginable. Aucun de nous n'aurait pu la prédire.
Scène de catastrophe sur le front de mer en Floride, un immeuble qui s'écroule hier en pleine nuit. Une centaine de personnes sont toujours portées disparues. Le sommet européen à Bruxelles et la loi anti-LGBT au cœur des discussions entre les 27 hier soir. Victor, que t'est-il arrivé? C'est ce qu'a demandé Emmanuel Macron au Premier ministre hongrois. Dans ce journal aussi, J-2 avant les élections régionales, nous serons en PACA et en Ile-de-France. La mise en garde de l'UFC Que Choisir sur les pratiques de certains influenceurs. Et puis des bleus qui tombent comme des mouches, de nouveau blessés à l'entraînement hier. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré, et le regard international avec Didier François.
Oui, avec les soldats afghans qui se font sérieusement malmenés par une vaste offensive des talibans.
Juste après l'édito sport, c'est Virginie Fulpin, et puis avant 7h30, notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, ça va barder aujourd'hui. Bah, d'où vient cette expression?
Tout à l'heure, juste avant 7h30. Très bon réveil à toutes et à tous, vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Les images sont impressionnantes. Un immeuble éventré, un immense tas de gravats à quelques mètres du sable et d'une eau bleue turquoise. Un bâtiment d'habitation de 12 étages s'est en partie effondré la nuit dernière près de Miami, faisant au moins un mort et 99 disparus.
Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Ce matin, donc, les secouristes continuent de s'affairer avec l'espoir de retrouver des survivants.
Oui, et c'est un travail lent et méthodique, car pour ces équipes de secours, impossible de passer par le haut des décombres. La montagne de gravats est trop instable. Elles ont donc commencé à creuser dessous. Elles utilisent des sonars pour tenter de retrouver des survivants. Des bruits de coups ont été entendus, mais pas de voix humaine. Les images de cet immeuble de 12 étages partiellement effondré ont été diffusées toute la journée sur les chaînes d'information américaines. Les témoins et les quelques habitants qui se sont exprimés ont parlé d'un tremblement de terre. Certains ont expliqué avoir dû fuir l'immeuble à toute vitesse au milieu d'un immense nuage de poussière. Le gouverneur de Floride a décrété l'état d'urgence et le président Joe Biden a promis de fournir toute l'aide fédérale nécessaire. Il est 1h du matin à Miami et les recherches vont se poursuivre toute la nuit.
Et est-ce qu'on en sait plus, Alexis, sur les raisons de cet effondrement?
Alors, pour le moment, on sait que cet immeuble a 40 ans. Il a été construit en 1981. Il venait d'être inspecté récemment pour recevoir une nouvelle certification, comme le veut la loi en Floride. Des travaux ont même été menés sur le toit. Rien ne présageait donc qu'une partie de ce bâtiment s'écroule hier en pleine nuit, autour d'1h30 du matin, alors que ses habitants dormaient. 102 résidents sont sains et saufs, mais 99 personnes sont donc toujours portées disparues. Il est très difficile de savoir combien se trouvaient exactement sur place, car cette copropriété abrite à la fois des résidents à temps plein et d'autres saisonniers qui venaient profiter de la plage à quelques mètres seulement. Il ne reste donc plus qu'une aile de ce bâtiment encore debout avec ses logements éventrés qui font face à l'océan.
Voilà, et 24 heures après, donc, les opérations de secours qui se poursuivent. Précision en direct d'Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Les États-Unis, par ailleurs, où la peine prononcée à l'encontre du policier Derek Chauvin sera annoncée aujourd'hui. 30 ans de prison ont été requis pour le meurtre de George Floyd l'an dernier à Minneapolis.
Une discussion à 24 contre 1. Les dirigeants européens très remonté contre le Premier ministre hongrois Viktor Orban et sa loi anti-LGBT.
Un texte adopté la semaine dernière et qui fait craindre jusqu'à une interdiction des livres, des séries ou des publicités dans lesquelles l'homosexualité est évoquée. Le sujet a été débattu hier soir lors du sommet européen. Un débat passionné dont vous avez pu obtenir la coulisse, Isabelle Horry, à Bruxelles pour Europe 1.
En fait, chaque dirigeant s'est exprimé avec son propre style. Le luxembourgeois Xavier Bettel a livré un témoignage personnel. « Je ne suis pas devenu gay, je le suis », a-t-il expliqué. « Et ma mère déteste ce fait, je dois vivre avec ». Allusion au fait que la loi hongroise prévoit que les parents soient la seule influence sur l'orientation sexuelle de leurs enfants. C'est ensuite que Mark Rutte des Pays-Bas est intervenu brutalement. « Si tu fais des choses comme ça, pourquoi veux-tu rester dans l'Union européenne ?» a-t-il lancé à son collègue hongrois qui lui a répondu qu'il n'avait pas lu la loi, qu'il s'agissait juste de protéger les enfants. La présidente de la Commission européenne a alors lu des extraits du texte qui font l'amalgame entre homosexualité et pédophilie. Emmanuel Macron a demandé « Victor, tu étais un libéral, que s'est-il passé ?» Seuls le Polonais et le Slovène ont soutenu Orban. Pourtant, à l'issue de ce débat intense et passionnel, selon un participant, il n'a pas plié. Il ne va pas retirer sa loi. Il a des élections bientôt, estime une source française qui poursuit. Mais désormais, la situation des personnes LGBT est devenue un sujet politique en Europe.
Isabelle Horry, spécialiste des affaires européennes à Bruxelles pour Europe 1.
7h05, dernier jour de campagne avant le second tour des élections départementales et régionales. Dernière occasion de convaincre pour les candidats.
Dont certains s'affichent au coude à coude, comme en PACA 50-50 entre le sortant Renaud Muselier pour les Républicains et Thierry Mariani pour le Rassemblement National. C'est ce qui ressort ce matin du dernier baromètre Opinionway pour CNews.
Sur le terrain, donc, l'heure était à la mobilisation, encore hier soir, dans les deux camps. Reportage du correspondant d'Europe 1, Frédéric Michel.
Au Rassemblement national, un seul mot d'ordre, faire voter les abstentionnistes, Fernand, un militant.
Il faut une forte mobilisation dimanche pour empêcher la Macronie de passer et un nouveau visage pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Militant de la première heure, ce couple qui habite Fréjus veut y croire mais redoute le Front républicain.
Ils ne s'entendent pas du tout et ils se rassemblent uniquement pour lutter contre Marine.
Au lieu de nous proposer quelque chose, c'est pas un programme ça.
Et Louis Alliot, venu soutenir Thierry Mariani, pense déjà à l'après.
Et j'espère bien que demain, avec la victoire en PACA, ce ne sera que le signal pour la grande reconquête qui s'opérera l'année prochaine à l'élection présidentielle et aux élections législatives.
Au même moment, Christian Estrosi organisait à Nice un meeting.
Là où il n'y a eu que 30% de participation, il faut dire autour de vous que c'est l'enjeu de la démocratie et de ce pacte républicain.
Et l'ancien président Nicolas Sarkozy appelait dans Nice matin à se mobiliser.
Il n'y a pas que Nicolas Sarkozy qui appelle. Et on va gagner. Ça va être juste, mais on sera demain.
Le retrait de la liste de gauche a fait une nouvelle espérance. Et on va garder la région.
Et les militants de chaque camp ont quelques heures encore pour convaincre les abstentionnistes.
Des abstentionnistes également appelés à se rendre aux urnes dimanche. Tribune sur le site internet du JDD d'un millier de militants associatifs, politiques et citoyens de moins de 30 ans avec ce message pour la jeunesse. Ne laissez personne d'autre décider à votre place de votre avenir. Dimanche dernier, le taux d'abstention atteignait 82% pour les 18-35 ans.
En Ile-de-France, meeting hier pour les deux principaux rivaux. Valérie Pécresse donnait largement en tête devant la liste de gauche emmenée par Julien Bayou. L'écologiste qui pour autant ne baisse pas les bras. La victoire est à portée de main, assure-t-il.
On nous disait désunis, nous voici rassemblés. On nous disait aux abois, nous voici conquérants. On nous disait irréconciliables, nous voici compacts et soudés comme jamais. Les forces du progrès écologique et social prêtes à remettre la région Île-de-France sur les bons rails de la transition écologique dans la justice sociale. Ce rassemblement, c'est celui qui fait trembler Valérie Pécresse, qui depuis lundi n'hésite plus à tomber dans l'insulte, la caricature, la méprise. Chers amis, dimanche prochain, nous allons créer la surprise. Alors ce n'est pas forcément une surprise pour nous, mais peut-être une surprise pour certains commentateurs, commentatrices, qui donne Valérie Pécresse gagnante avant même que les électrices et les électeurs aient pu se prononcer. Alors notre responsabilité, ma responsabilité, c'est d'offrir à notre région une alternative à l'ultralibéralisme inconscient qui, en faisant marchandise de toutes choses, la santé, l'éducation, les transports, a fini par mettre en péril notre avenir commun.
Le candidat de la gauche pour les régionales en Ile-de-France, Julien Bayou, avec Hélène Terzian pour Europe 1.
6 ans après la disparition de Lucas Tronche dans le Gard, des ossements retrouvés hier, pas très loin du domicile de l'adolescent.
Oui, Gladys Laffitte, ces nouveaux indices vont maintenant devoir être examinés.
Oui, des ossements possiblement humains, mais aussi des débris de vêtements et un sac similaire au sien ont été retrouvés par des pompiers spécialisés dans les milieux périlleux sur une paroi rocheuse à quelques centaines de mètres seulement du domicile de l'adolescent. Des éléments qui laissent peu de place au doute, mais il faudra néanmoins attendre les examens médico-légaux et aussi génétiques pour confirmer qu'il s'agit bien de Lucas Tronche. Il y a 6 ans, il devait se rendre à la piscine avec son frère aîné, mais ne l'a jamais rejoint. Depuis, les fausses pistes se sont multipliées. Que s'est-il passé exactement ce jour-là? Toutes les hypothèses restent ouvertes. L'enquête continue et devra répondre à cette question. Mais aujourd'hui, pour la famille de Lucas Tronche, vient le temps du recueillement, disent les parents dans un communiqué. Celui aussi du silence, autrefois assourdissant, mais aujourd'hui nécessaire pour continuer désormais sans lui, écrivent-ils. Au début du mois de juin, la famille avait participé à une émission sur M6 en lançant un appel à témoins, sans que cette médiatisation ait un lien avec les découvertes d'hier, assure le procureur de la République de Nîmes.
Gladys Laffitte.
Il nous accompagne au quotidien, presque des amis que l'on suit sur les réseaux sociaux, des amis pourtant qui ne vous veulent pas toujours du bien. L'UFC Que Choisir met en garde contre les pratiques de certains influenceurs.
Qui, sur leur chaîne ou sur leur compte Instagram, Facebook, YouTube, peuvent être amenés à vanter les mérites de différents produits auprès de centaines de milliers d'abonnés. Mais attention, dit l'association de consommateurs, il y a parfois arnaque, Clément Le Saffre.
Oui, d'autant que c'est un phénomène grandissant. Les influenceurs, souvent des stars de la télé-réalité ou de YouTube, sont payés par des marques pour faire la promotion de leurs produits. En vidéo, code de réduction, bon plan, tout est fait pour inciter leur communauté, souvent jeune, à sortir la carte bancaire. Exemple avec l'influenceuse Maddy Burciaga.
Sur le site, vous retrouvez les body tapes. Vous les avez, comme je vous ai dit, en nude, en noir, vous avez des packs. Voilà, moi j'adore. Profitez-en, vous avez moins 50% sur tout le site.
Dans ces offres, on trouve principalement des vêtements, des gadgets électroniques et des produits de beauté. Sauf qu'il y a pas mal d'arnaques, colis jamais livrés, produits non homologués et surtout aucun moyen de se faire rembourser à cause du dropshipping, une technique sur laquelle Cyril Brosset a enquêté pour l'UFC Que Choisir.
Les sites de dropshipping, c'est des sites qui sont la plupart du temps basés en France mais qui ne font que prendre les commandes et ensuite ils basculent la commande sur un autre prestataire qui est le plus souvent un site chinois, notamment AliExpress. Et après, le site français ne s'occupe plus de rien. En soi, c'est pas illégal. Le problème, c'est que en cas de problème de livraison, ils ont personne vers qui se retourner.
Alors l'association de consommateurs a alerté la Direction Générale de la Répression des Fraudes sur ces pratiques. Elle souhaite également faire adopter une charte pour distinguer les bons influenceurs des mauvais.
Oui, avec notamment cette requête formulée auprès des influenceurs de mentionner clairement la publicité ou le placement de produits.
Des blessés en cascade au sein de l'équipe de France de foot après Lucas Digne et Lucas Hernandez touchés lors du match contre le Portugal. Ce sont deux nouveaux joueurs qui se retrouvent à l'infirmerie.
Bonjour Lénaïc Monnier.
Bonjour.
Est-ce qu'il faut s'inquiéter ?
En tout cas, ces deux nouvelles alertes tombent au plus mauvais moment. C'est Marcus Thuram tout d'abord qui a glissé hier à l'entraînement. Il est touché à la cuisse. Quant à Thomas Lemar, lui a pris un coup au pied. On l'a vu se tordre de douleur. Il a même été raccompagné par les soigneurs. Mais on se rassure, normalement, il devrait bien être remis d'ici lundi, à l'inverse de Lucas Digne, forfait, et de Lucas Hernandez, qui pourrait l'être également. Ça commence à faire beaucoup puisqu'on n'oublie pas le départ de Dembélé et on n'oublie pas non plus Rabiot en délicatesse avec sa cheville.
Que peut faire Didier Deschamps avec un banc appauvri ?
Alors, il y a plusieurs pistes. Mettre des joueurs à des postes qui ne sont pas les leurs, un peu comme un jeu de bonne-tourne interverti, de la défense centrale à l'aile, de la gauche à la droite, comme Rabiot, milieu de terrain transformé en latéral mardi contre le Portugal. Autre solution, une défense à 3, ce qui implique un jeu plus offensif, mais il faudrait que très vite justement le trio Benzema, Griezmann, Mbappé soit beaucoup plus prolifique.
Voilà, une infirmerie à surveiller en tout cas d'ici lundi et le 8e de finale de cet Euro pour la France contre la Suisse.
C'est un air que vous avez forcément entendu. Sans forcément connaître d'ailleurs l'auteur ou le titre, Le Temps est bon par Bon Entendeur, un groupe qui remet au goût du jour des titres oubliés, parfois on peut le dire même un peu vieillot.
Oui, et qui réitère aujourd'hui avec un nouvel album intitulé Minuit, extrait et confidence au micro Europe 1 d'Angèle Châtelier.
On a pensé cet album en deux faces. Il y a une face jour, une face nuit. La première face correspond un peu à la continuité du premier album avec des reprises de morceaux francophones des années 60-70. Et en même temps, avec ce contexte justement on avait toute cette tournée annulée, où on a été confinés, où nous, ce qui nous manquait le plus avant tout, c'était de pouvoir faire la fête. On s'est dit qu'on avait aussi envie de s'intéresser à des morceaux un peu plus dansants et proposer aux gens qui nous suivent des morceaux beaucoup plus festifs.
La fête, c'est la libération, c'est l'insouciance, c'est la liberté. Et c'est ça vraiment qui nous a manqué durant tout un été, un an quoi.
Voilà, faire la fête jusqu'à minuit, justement, ça tombe bien avec ce nouvel album de Bon Entendeur.
Pour l'heure, il est 7h14, mais quelque chose me dit qu'on va entendre ces airs pendant tout l'été. Merci Marion Calais, c'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à tous. Avec une semaine d'avance sur la normale, le Tour de France s'élance demain de Bretagne. Vous allez vivre ce tour bien sûr avec Europe 1 et dès ce matin, un local de l'étape dans le tête-à-tête Europe Matin, le breton Warren Barguil de l'équipe Arkéa Samsic. Rendez-vous à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Nicolas. On se retrouve dans... Pardonnez-moi, je vais être parfaitement transparent avec nos auditeurs. Il y a une pub d'habitude et là, il n'y en a pas. Donc on enchaîne, c'est parti pour l'éclairage éco de Nicolas, je ne comprenais pas. Si on demande, Nicolas, à un chef d'entreprise comment vont les affaires, il y a de fortes chances qu'il réponde bien, le moral est au beau fixe.
Oui, il y a même un peu d'euphorie, vous voyez. Et c'est vrai, le baromètre du climat des affaires qui est calculé par l'INSEE monte en flèche. La confiance des chefs d'entreprise est au plus haut depuis la mi-2007, donc avant la crise financière. Alors, comme si les incertitudes, parce qu'il y en a toujours, étaient balayées par la reprise, balayées par les carnets de commandes qui se remplissent, par l'argent que les consommateurs dépensent. On le voit d'ailleurs de semaine en semaine avec les relevés de cartes bancaires, plus 19% de dépenses sur la deuxième semaine de juin par rapport à la même semaine de 2019 avant le Covid. Donc c'est vraiment le signe d'une économie qui carbure.
Cette confiance des dirigeants d'entreprise se traduit souvent par des projets de croissance. C'est un cercle vertueux.
Exactement. Un sondage de la Banque Palatine et du mouvement des entreprises intermédiaires montre que 97% des patrons de ces grosses PME sont confiants ou très confiants dans leurs perspectives d'activité. C'est quand même rare. Et du coup, 40% d'entre eux ont lancé déjà des projets de croissance externe, donc de rachat d'une autre entreprise. Et plus de 20% ont l'intention de faire la même chose d'ici la fin de l'année. C'est vraiment le signe qu'il parie sur une reprise durable et pas sur un feu de paille.
Le gouvernement veut capitaliser sur ces bonnes nouvelles économiques.
Mais c'est bien normal, c'est clair. Attendez-vous notamment à une offensive du chef de l'État qui recevra en tout début de semaine 150 dirigeants de grandes entreprises françaises et internationales à Versailles pour les inviter à investir en France. C'est le sommet Choose France qu'il organise désormais tous les ans. Emmanuel Macron ira aussi dans les Hauts-de-France sur le site d'une nouvelle usine de batteries électriques, une gigafactory comme on dit, dans laquelle un grand groupe chinois va investir environ 2 milliards d'euros. Et puis, dans un autre genre, il inaugurera les locaux de la banque américaine JP Morgan, qui se renforce à Paris, qui crée des emplois à la faveur du Brexit. Bref, le climat économique est positif, la reprise est vraiment là.
Et derrière votre masque, je devine un sourire, Nicolas Barré. Merci beaucoup, Nicolas, directeur de la rédaction des Échos. Il est 7h17. Le regard international avec Didier François ce matin. Bonjour Didier.
Bonjour.
Le président afghan qui fait face à une offensive générale des talibans est arrivé cette nuit aux États-Unis. Il veut convaincre Joe Biden de suspendre le retrait des troupes américaines qui devrait être terminé le 11 septembre prochain.
Oui, alors c'est un véritable appel au secours que vient lancer à la Maison-Blanche le président Ashraf Ghani, dont les forces sont aujourd'hui très sérieusement bousculées. Elles ont encore perdu, pas plus tard qu'avant-hier, le principal point de passage entre l'Afghanistan et le Tadjikistan. C'est au nord, dans la province de Kunduz, qui n'est pourtant pas un bastion historique des talibans, mais qui est en revanche extrêmement important pour l'économie du pays. Alors au moins cette fois, les forces gouvernementales auront opposé un semblant de résistance. Elles ont combattu pendant une heure, mais face à des miliciens islamistes très motivés, bien organisés, et qui avaient visiblement, soigneusement planifié leur opération, ce qui est d'ailleurs le cas depuis le début de cette offensive, qui a commencé au mois de mai, les talibans ayant saisi deux opportunités convergentes. D'abord, le début du retrait américain qui a laissé l'armée afghane fort démunie et puis le début de printemps qui a ouvert grand les voies logistiques depuis le Pakistan. Et donc on assiste depuis deux mois à un effondrement des lignes de défense des forces loyalistes afghanes dont les postes tombent comme des dominos les uns après les autres. Les talibans se sont emparés d'une cinquantaine de districts sur les 300 que compte l'Afghanistan, sachant qu'ils ont contrôlé déjà plus d'une centaine.
Et donc dans les faits, le mouvement islamiste dirige déjà plus de la moitié du pays.
Absolument. Il ne fait que se renforcer puisque, évidemment, à chaque victoire, les talibans récupèrent tout le matériel abandonné par l'armée nationale afghane ou par la police. Et ce sont quand même des arsenaux conséquents avec des engins blindés, par exemple, qui avaient été fournis en grande quantité par les États-Unis.
Et Washington n'entend pas intervenir ?
Alors, c'est même pas envisagé. La décision de retrait a été prise sous Donald Trump et Joe Biden y est totalement rallié. Il veut que le dernier soldat américain ait définitivement quitté le sol afghan au plus tard le 11 septembre prochain, soit exactement 20 ans après le déclenchement de cette intervention. C'était en 2001. La seule déclaration de la Maison-Blanche a été pour demander aux talibans d'arrêter les combats et de relancer des négociations avec les autorités afghanes pour former un gouvernement d'union nationale. Mais vous imaginez bien que ce type type d'appel a assez peu de chances d'être entendu par un mouvement qui a l'impression de gagner la guerre et qui poursuit systématiquement sa stratégie d'encerclement des villes en s'emparant de toute leur campagne.
Merci beaucoup Didier François, le regard international. Il est 7h19 sur Europe 1. Dans un tout petit instant, l'édito sport de Virginie Fulpin.
Le Tour de France part demain de Brest dans le peloton. Un revenant, Chris Froome, l'homme qu'on adorait détester quand il gagnait et qu'on apprend à aimer maintenant qu'il ne gagne plus.
Et on va aussi retrouver Stéphane Bern dans un instant. À tout de suite sur
Europe Matin.
Le 7-9. Mathieu Béliard.
7h21 sur Europe 1, l'heure de l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le Tour de France part demain de Brest. La course cycliste retrouve l'heure d'été, son public et une vieille connaissance. Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour qui revient après 3 ans d'absence. Et ce n'est plus le même coureur. Hein. Pour vous, Virginie, il n'a aucune chance de gagner et c'est justement pour ça qu'on va l'apprécier davantage.
Bah, y a des champions comme ça qu'on apprend à aimer une fois qu'ils sont tombés de leur piédestal et de leur vélo en l'occurrence, du temps de sa splendeur. Chris Froome, on adorait le détester. Il remportait le Tour sans nous offrir d'émotion, tout juste de la suspicion. Il gagnait trop, ça avait l'air trop simple. Il était le leader insolent de cette Team Sky richissime qui roulait des mécaniques et ça nous agaçait. Ce qu'on aime dans le vélo, c'est la sueur et les larmes, les défaillances romantiques et les victoires héroïques, pas les calculs froids et les dominations écrites d'avance. Chris Froome a reçu beaucoup de lauriers et peu d'amour sur le Tour, mais ça va changer cette année. C'est lui qui a changé. Son terrible accident en marge du Dauphiné il y a 2 ans a brisé son corps et anéanti ses ambitions. C'est terrible, mais on a vu le robot devenir humain après tout, comme diraient les Daft Punk. Aujourd'hui, il nous touche parce qu'il essaie de revenir, parce qu'il se bat et qu'on découvre une autre facette du personnage. Chris Froome va s'élancer de Brest demain, cette ville où il a découvert le Tour en 2008, les dents qui rayaient le bitume à l'époque et où il revient simplement pour être heureux sur son vélo.
Alors on peut le dire sans risque de se tromper, un Chris Froome ne gagnera pas le Tour de France, Virginie ?
Non, mais pour la première fois, il va gagner
on
les
garde,
cœurs.
On enregistre, hein, là. On ne sait jamais. Hein.
Oui, non, on ne sait jamais, chance. Tout est possible, c'est vrai, je prends des risques. Il le dit lui-même, il sent une chaleur nouvelle de la part du public en France depuis son retour. On l'a vu incapable de suivre un peloton lors du dernier Dauphiné, il a fini 47e, usé, cassé. Et le fait même qu'il se présente au départ du Tour lui fait gagner ses galons de héros, qu'on lui a toujours refusé quand il arrivait avec le maillot jaune sur les Champs-Élysées. Le cœur n'a que faire du palmarès et on s'attache davantage aux hommes de l'ombre blessés dans leur corps et leur orgueil qu'aux vainqueurs insipides. Avant, Chris Froome prenait le départ en voulant écraser tout le monde sur son passage, admirer un peu, suspecter beaucoup, aimer presque pas. Aujourd'hui, le Britannique arrive en souriant, il veut profiter, essayer de gagner une étape et aider ses coéquipiers. Il apprend à penser aux autres. « Vous pouvez vous attendre à me voir porter des bidons pendant 3 semaines », dit-il. Ah oui, parce qu'en plus, Chris Froome a de l'humour et sait se moquer de lui-même. On a attendu 2021 pour le savoir, mais je suis persuadée qu'il sera encouragé comme jamais quand il grimpera le Mont Ventoux. Ça ressemble quand même à une nouvelle victoire sur le Tour de France, non ?
Merci beaucoup Virginie Fulpin. Ce Tour de France qu'on va suivre, qu'on va vivre sur Europe 1, le journal du Tour, tous les jours à 7h10. Je ne vous donne pas tout le programme, évidemment. On en reparlera de l'étape du jour dans le 18-20 et puis le Club Tour le soir. Warren Barguil à 7h40 ce matin. Ça c'est mon invité, le tête-à-tête Europe Matin. Axel May a pu le rencontrer, l'interroger. Le Breton, j'allais dire le Français, le Breton, puisque le Tour s'élance de Brest demain. Merci Virginie Fulpin.
Régional de l'étape, comme on dit.
Le régional de l'étape, oui. 7h24, Stéphane Bern est avec nous avec un mot d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Quand les esprits s'échauffent, quand on est tout proche d'un clash, une expression résume cette ambiance. On dit « ça va barder ».
Oui, les parents utilisent encore cette expression d'ailleurs, « ça va barder ». Est-ce que d'ailleurs le bar de Gaulois a quelque chose à voir dans cette formule avec la colère des dieux ?
Non, pas le moins du monde. C'est plutôt vers l'univers militaire qu'il faut chercher, plus spécialement à la fin du 19e siècle. Barder à l'armée, c'est être obligé d'accomplir une corvée, un travail pénible que personne n'a envie de faire. Barde, avec un D à la fin, c'était une civière et transporter les blessés était toujours une tâche ardue. Dans des temps encore plus reculés, la barde était une armure particulièrement lourde que les chevaliers portaient, mais aussi les chevaux. Alors, le point commun à tout cela, c'est la lourdeur. Pensez au barda des militaires.
Ah, mais oui. Ah oui, bien sûr.
Si personne ne sait vraiment comment on est passé de la pénibilité à la colère, l'origine militaire ne fait aucun doute. Les amateurs d'expression argotique connaissent la mise en garde. Fais attention, ça va barder pour ton matricule. Pour dire « ça va barder », en Angleterre, on dit « sparks are going to fly », les étoiles vont voler. On peut dire des étincelles aussi. Aux États-Unis, c'est « the shit is gonna hit the fan ». C'est très grossier.
Vous avez compris.
C'est une histoire d'excréments qui vont se retrouver, on ne sait trop comment, dans un ventilo. En Espagne, on préfère « se van a enterrar de lo que vaya un pene ». et qui en français donne « ils vont apprendre ce que ça coûte un peigne ». Voilà une expression pleine de mystère, car contredisez-moi si je me trompe, mais un peigne reste financièrement abordable à l'achat.
Oui, et puis clairement, les Espagnols n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un peigne, pardon.
Que ça barde ou pas, n'oubliez pas que la peur mène à la colère à la haine et la haine à la souffrance. C'est une citation du grand philosophe Maître Yoda dans Star Wars.
Je me disais que je l'avais déjà entendu. À 16h tout à l'heure, cette historiquement vôtre.
On réunit l'exubérante marquise Luisa Casati, l'inoubliable interprète d'Emmanuel Sylvia Christel, qui en se déshabillant à l'écran ne pensait pas que ce rôle lui collerait tant à la peau, et une diva qui a connu la gloire mondiale avant de sombrer dans le piège pernicieux de l'alcool, Whitney Houston. Leur point commun ? Eh bien, elles ont connu la gloire et les déboires.
Merci Stéphane Bern, 7h26, on vous retrouve à 16h tout à l'heure avec Mathieu Noël. Dans un instant, c'est Laurent Cabrol, la météo et un nouveau journal avec Sophie Echen. Europe 1. 7h28 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
J'ai l'impression que vous avez eu, chers amis, la tentation du chauffage ce matin. Vous étiez là à deux doigts de l'allumer, le chauffage d'appoint, parce que franchement, 6 degrés en Sologne, 7 à Saint-Quentin ce matin, et actuellement encore, 10 à Orléans, et c'est pas chaud chaud, hein, 11 à Clermont-Ferrand, 12 à Bordeaux, 13 à Paris, et 8 à 10 en banlieue parfois. Hein. Vous voyez que ces températures extrêmement basses sont les températures qui ont baissé, bien sûr, en raison des éclaircies nocturnes, et ces éclaircies nocturnes ont été nombreuses. Cela veut dire que le soleil sera là aujourd'hui, donc ne vous précipitez pas sur le chauffage, attendez un petit peu, ça va monter. Mais il ne fera guère plus de 17 à 22 sur la moitié nord et de 25 à 29 sur la moitié sud. Il pleuvra sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord et la pluie arrivera dans la fin de journée sur les pays de la Loire, le centre, le Berry, la région parisienne et la Champagne-Ardenne. Partout ailleurs, allez, vous aurez la tentation d'en profiter.
Merci beaucoup. Eh bien, profitons-en. Laissons-nous tenter par cette tentation d'en profiter du beau temps. Merci Laurent Cabrol. Il est 7h29 sur Europe 1. Sophie Echen nous a rejoint. Bonjour Sophie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal.
Normalement, on est tous censés pouvoir accéder aux soins quand on en a besoin. Aujourd'hui, on est vraiment face à un embouteillage de patients.
L'afflux de malades du Covid dans les hôpitaux a provoqué des déprogrammations d'opérations en cascade, mais aujourd'hui encore, 40% des interventions n'ont toujours pas pu être pratiquées. Dans ce journal, vous pensiez qu'on ne pouvait plus guincher à 92 ans ? Eh bien, vous emmène dans un EHPAD en plein Balmusette. Le second tour des régionales dimanche, Nicolas Sarkozy sort de son silence politique et s'engage contre le Rassemblement National en PACA. On dressera le profil type des emprunteurs région par région. Et puis en plein euro, la sortie d'un nouveau manga consacré au football.
Juste après ce journal, La Touche Âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Le tête-à-tête Europe Matin avec le cycliste breton Warren Barguil alors que le Tour de France s'élance demain de Brest. L'édito politique, c'est Nicolas Bétou.
Dimanche, au second tour des élections régionales, beaucoup d'électeurs de La République En Marche ne sauront pas quel bulletin choisir. Voter à gauche, voter à droite, la Macronie est en plein doute.
Et puis enfin, avant 8h, Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk reçoit la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Moins de 10 000 malades du Covid hospitalisés, 1 500 en réanimation. Le taux d'occupation dans ces services est en baisse depuis des mois. Et la crise sanitaire recule. Mais malgré cela, l'hôpital peine à absorber tous les rendez-vous reportés depuis un an. Les opérations chirurgicales non essentielles reprogrammées pour libérer des lits. Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
L'UFC Que Choisir tire la sonnette d'alarme car même aujourd'hui, la situation est loin d'être revenue à la normale.
Oui, sur la base d'une enquête auprès de 800 patients, l'Association de défense des consommateurs a calculé que sur des opérations annulées en pleine crise sanitaire, donc entre mars 2020 et mars 2021, 40% n'ont toujours pas eu lieu et près d'un tiers n'ont même pas été reprogrammés, explique Lauriane Lemaine, chargée de mission santé à l'UFC Que Choisir.
Aujourd'hui, on est vraiment face à un embouteillage de patients. Et dans un quart des cas, les usagers ne sont même pas au courant de la date à laquelle leur prochaine opération devrait se tenir. Donc on imagine les conséquences en termes de stress. Normalement, on est tous censés pouvoir accéder aux soins quand on en a besoin.
Et les patients qui ont eu la chance de voir leur opération reprogrammée ont attendu en moyenne 7 mois avant d'obtenir un nouveau rendez-vous. Dans 80% des cas, ces malades estiment subir en conséquence de l'inconfort, des douleurs ou du stress. 5% évoquent aussi de même des pertes de chance avec un retard de diagnostic. L'UFC Que Choisir en appelle donc au pouvoir public pour qu'il facilite le recours aux cliniques privées pour la prise en charge de ces opérations déprogrammées.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
Un mois que nous sommes déconfinés
confinés, un mois donc que la vie reprend son cours, petit à petit, et cela vaut aussi pour les EHPAD.
Oui, nos aînés ont particulièrement souffert de l'isolement, alors dès que l'occasion leur a été donnée de valser sur des chansons populaires, autant vous dire qu'ils n'ont pas hésité. Comme hier à l'EHPAD Saint-Georges, près de Villers-Cotterêts, les résidents ont pu profiter de leur première bal musette, et Yasmina Katou aussi.
Sous les guirlandes de lampions et de fanions multicolores typiques des bals musettes, les sourires se voient sur tous les visages démasqués des résidents. Françoise, 78 ans, s'est pomponnée pour l'occasion.
C'est une robe à moi. Elle est rouge avec des fleurs noires et tout, quoi. Voilà. On m'a mis un petit peu de rouge à lèvres.
Je vous ai vu danser.
Oui, c'est vrai, avec une dame que je connais bien. J'ai fait ce que j'ai pu, c'est tout.
Ça vous a un peu dégourdi les jambes.
Oui.
Assise à côté de Françoise, Yvonne.
J'ai 92 ans, madame, et toute ma tête.
Ses hanches ne lui permettent plus de valser sur la piste comme à l'époque, alors Yvonne chante à gorge déployée. Ce bal musette, c'est la bouffée d'air qu'attendaient tous les résidents, explique Yvonne.
On a perdu beaucoup de choses. Avant, on avait notre chorale, on avait des jeux. Maintenant, depuis qu'on a eu le virus, ça a été un petit peu pour l'année. C'est vrai. Moi, je déprime. Moi, il faut que ça bouge.
Les yeux embués, Yvonne confie, cette journée restera gravée à jamais dans ma mémoire. À Keuvre et Valserie, dans l'Aisne, Yasmina Katou, Europe 1.
Je vais négliger sans volonté sous ces baisers.
Je ne voulais pas lui couper la parole. Surtout pas la vie qui reprend son cours. Le second tour des élections régionales et départementales, c'est dimanche. Et à deux jours du scrutin, les grandes voix de la politique qui affichent clairement des soutiens. Lionel Jospin, par exemple, qui appelle à voter Julien Bayou. Ça, c'est une réponse à Manuel Valls hier matin sur Europe 1, qui appelait à voter Valérie Pécresse. Et puis, Nicolas Sarkozy, qui affiche clairement son soutien à Renaud Muselier dans la région sud.
Le président sortant, qui est au coude à coude avec le candidat RN, Thierry Mariani, 50-50 selon un sondage CNews publié ce matin. Aurélie Arbemont, Nicolas Sarkozy s'était pourtant retiré de la vie politique. Renaud Muselier est le seul candidat pour lequel il s'engage publiquement.
Et oui, impossible pour Nicolas Sarkozy de laisser son ami Renaud Muselier seul au front. Il y avait trois pistes d'intervention, confie l'équipe de campagne. Un déplacement, une vidéo sur les réseaux sociaux ou une interview dans la presse. C'est cette dernière option qui a été retenue par l'ancien président. Puisque la gauche s'est désistée, pas besoin d'aller sur place, glisse un de ses amis. Un déplacement aurait d'ailleurs pu être contre-productif, car dimanche, Renaud Muselier aura aussi besoin des voix de gauche. Pas question de braquer le moindre électorat. Un de ses proches espère que le coup de pouce de l'ancien président pourra mobiliser les abstentionnistes de droite. Nicolas Sarkozy tense d'ailleurs les élus LR qui ont refusé de faire campagne, voire de voter Muselier au premier tour à cause de l'accord avec En Marche. Si Renaud perd, vous perdrez tous, prévient-il. Avant d'égratigner son ancien ministre, Thierry Mariani, passé sous pavillon RN, la trahison des engagements, c'est lui. Bref, Nicolas Sarkozy utilise son aura d'ancien chef de l'État pour essayer d'empêcher Marine Le Pen de décrocher une région.
Aurélie Arbemont, l'homme qui avait attaqué des militaires à la machette au carrousel du Louvre en 2017 a été condamné à 30 ans de prison, assorti d'une période de sûreté de 20 ans. Cet Égyptien de 33 ans écope aussi d'une interdiction définitive du territoire français.
Comme chaque année, le site meilleurtaux.com dresse le profil type de l'emprunteur immobilier. Qui emprunte, quel montant et sur combien d'années?
Mais cette année, le profil type a été réalisé région par région et il y a pas mal de disparités, Carole Ferry.
Alors depuis le début de l'année, les Français empruntent en moyenne 193 204 euros avec un revenu d'un peu plus de 4 300 euros net par mois pour l'ensemble du foyer. Ça, c'est la moyenne nationale, mais qui cache en effet d'importantes disparités suivant les régions. En Île-de-France, l'emprunt moyen est supérieur à 298 000 euros, quasiment deux fois plus important par exemple qu'en Bourgogne-Franche-Comté, car bien entendu le prix de l'immobilier n'est pas le même, mais il y a également des écarts très importants de revenus selon Maëlle Barnier, porte-parole de meilleurtaux.com.
Malheureusement, c'est vrai qu'on constate que selon les régions, les emprunteurs moyens affichent pas du tout les mêmes revenus. On est quasiment du simple au double qu'entre Bourgogne-Franche-Comté où on est à 3700 de revenus par foyer par mois, quand on est à plus de 6000 en Ile-de-France. Et on sait très bien qu'à Paris, l'emprunteur moyen, les foyers affichent plus de 8500 euros net par mois. Donc oui, il y a des grosses disparités malgré les bouleversements récents du marché de l'immobilier et de la demande.
Enfin, les emprunteurs ont en moyenne 37 ans et empruntent sur 21 ans.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
Cette information insolite, alors attention, il ne faut pas se moquer, on parle d'une quinquagénaire fragile sur le plan psychologique, qui se baignait dans une fontaine de Dijon hier, une fontaine dans laquelle elle avait déversé 47 200 euros. 47 200 euros ont été identifiés. Elle se baignait dans cette fontaine entre les billets. Elle a été prise en charge évidemment par le SAMU. On a retrouvé des coupures de 10, 20, 50 et 100 euros. Imaginez la scène simplement qu'il y a de quoi surprendre évidemment. 7h37.
Et on va écouter cette chanson culte qui va sans doute éveiller des souvenirs chez certains. Ils sont toujours en forme. Ça éveille des souvenirs. Hein.
Ah oui. On se sent un peu vieux aussi. Vous avez reconnu le générique d'Olivier Tom, évidemment.
Un générique culte pour un dessin animé culte tiré d'un manga destiné aux amateurs de foot.
Culte aussi.
Peut-être, oui. Alors justement, un nouveau manga pour les fans du ballon rond vient de sortir en France et ça s'appelle Aohashi. Alors Clément Le Saffre, évidemment, vous l'avez lu. Est-ce que c'est le digne successeur d'Olivier Tom ?
Ah oui, c'est un vrai régal pour les fans de foot. Dans Aohashi, on suit l'ascension d'Aoi Ashito, un ado de 15 ans, star de l'équipe de foot de son collège et qui rêve de devenir un jour professionnel en J-League, la Ligue 1 japonaise. Sauf qu'il joue un peu trop perso et qu'au haut niveau, eh bien ça ne suffit pas. Aoi va donc devoir s'entraîner dur pour percer. Et c'est là, justement, qu'Aohashi se démarque d'Olivier Tom. Pas de tir surpuissant qui casse les buts, ni de terrain long de 10 km. L'auteur Yugo Kobayashi a privilégié une approche plus réaliste du football. Sullivan Rouault, directeur de collection du label Mangetsu.
L'auteur est un vrai passionné de foot. Aohashi fait appel à des joueurs de la vraie vie. Là, dans le tout dernier chapitre, il a dessiné Cristiano Ronaldo pour expliquer un petit peu l'apport physique aussi que certains joueurs peuvent avoir, ou en tout cas athlétique. Et il en tire une vraie sève tactique qui va vraiment servir à appuyer son propos, notamment, je sais pas, sur la défense à 5, ou un contrôle orienté, le contrôle passe, etc.
Et cet ancrage dans la réalité du foot rend Aohashi véritablement passionnant, avec son héros borné mais attachant. Le manga exalte le dépassement de soi, la force du collectif. Au Japon, la série connaît un bel engouement hein, avec 24 tomes déjà parus et une adaptation en dessin animé verra même le jour l'année prochaine.
Ah bah on verra si le générique sera aussi culte que celui qu'on a entendu juste avant.
Oui, j'ai pas souvenir d'autant de techniques. Alors c'est un peu lointain mon souvenir d'Olivier Tom. Hein, sincèrement, le terrain qui faisait 1,5 km, ça on s'en rappelle tous, mais des contrôle orienté ou des défenses à 5, peut-être que c'est un peu plus technique, un peu plus football pour les amateurs. Et puis tiens, puisqu'on parle de sport, avant de terminer ce journal,
un autre ballon.
Oui, celui-ci est ovale. Quoique dans Olivier Tom, parfois il était un peu aplati quand ça en tirait très fort. Toulouse-La Rochelle, c'est la finale du top 14. Et c'est ce soir. Merci Sophie Echen, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1, il est 7h39.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À 8h15, la ministre déléguée en charge de la citoyenneté, Marlène Schiappa, alors qu'en Île-de-France, où elle est candidate, la gauche se déchire. Manuel Valls, Jean-Paul Huchon qui appellent à voter Valérie Pécresse, Lionel Jospin qui soutient l'Alliance à gauche. On va en parler avec Nicolas Bétou dans 10 minutes. Dans un instant, le cycliste breton Warren Barguil de l'équipe Arkéa Samsic, à 24 heures du départ à Brest. C'est spécial pour lui. Axel May a pu l'interroger pour le tête-à-tête Europe Matin. Mais d'abord, la touche âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, je suis au regret de vous annoncer que ce matin, je suis porteur de mauvaises nouvelles. Oui, encore.
À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h41 sur Europe 1, l'heure de la touche âme, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu. Tiens, vous souriez. Curieux. Si, si, malgré le masque, je vois bien que vous souriez. Là. Vos yeux sentent la malice. Là. Je me demande bien pourquoi. Hein. Car l'heure est grave. Nous pensions nous en être débarrassés. Timide et hésitant dans un premier temps, leur retour prend chaque jour un peu plus d'ampleur, au grand désespoir de nombreuses Françaises et Français. Non, je ne parle pas des pantacours, cet autre fléau, mais des poignées de main et de la bise. On les croyait classés dans le dossier des choses disparues à tout jamais, et pourtant, cette musique arrive beaucoup trop tôt dans le papier. Et pourtant, je ne compte plus les articles faisant écho à leur comeback. Comeback que l'on doit en grande partie à ceux qui disent « Non mais c'est bon, j'ai eu mes deux doses, allez, viens là !» Alors, je veux bien être compréhensif et conciliant, mais il y a des limites. Il me semble qu'on s'était tous mis d'accord pour que ça ne revienne pas. Autant pour l'album de reprise de Joe Dassin par les Frangines, j'avais rien dit. Mais là, je ne peux pas laisser passer. Ce matin, je lance donc un appel solennel. Ouais. Non, nous ne voulons pas de leur retour hors du cercle intime. Non, nous ne voulons pas de bon matin devoir affronter la main aussi moite que molle d'un collègue qui n'en porte que le nom. Non, nous ne voulons pas nous faire broyer les phalanges par des êtres qui, pour combler des failles personnelles, marquent leur supériorité avec leur paluche de boucher. Non, nous ne voulons pas que nos innocentes joues frôlent celles râpeuses, sèches ou grasses d'inconnus. Stop, au port à port. Non, nous ne voulons pas nous prendre des branches de lunettes dans la tronche. Nous ne voulons pas du « chez moi c'est 4 », non, moi c'est 8. Non, nous ne voulons pas que nos narines qui ont suffisamment souffert à coups de PCR se retrouvent sauvagement agressées par le mélange café, gauloise froide, aftershave, scorpio de Didier de la Comta. Dites non au retour de la bise et des poignées de main. Un autre avenir est possible, mais pour cela, il va falloir jouer collectif, les enfants. Vive les gestes barrières, vive la France. Oui, Mathieu, vous l'aurez remarqué, désormais, le vendredi, c'est chronique engagée. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin de la saison. Jusqu'à vendredi prochain, donc. Alors, afin d'amorcer le week-end de la plus belle des façons, et pour rester dans le thème, vous ne l'avez pas demandé, mais je vous l'offre quand même. Voici Tarkan.
C'est une guitare, mais bien sûr. Eh oui. Mais c'est vrai, j'ai constaté le retour de la bite, tout petit à petit, ça revient
comme ça.
Oui,
mais trop vite.
Et des gens aussi qui se tentent de serrer la main. Mais en plus, il faut pas, hein, blague à part.
Mais non.
Le virus continue à circuler, vacciné ou pas. Pardon, je fais un peu le...
Mais très bien, vous avez des cours, va nous montrer.
Je fais le casse-pied.
Non, mais vous avez raison.
Regardez, le taux de... Non, pardon, merci beaucoup.
Geste barrière.
Bertrand Chavérot à La Touche Cham tous les matins. Et on vous retrouve à 10h avec Philippe Vandel dans Culture Média. Il est 7h44.
Europe Matin, le 7-9.
L'été a démarré lundi. Mais ce qui donne le vrai coup d'envoi de l'été, le parfum de vacances, c'est aussi le Tour de France. Et Europe 1 va vous le faire vivre tous les jours, 7h10, le journal du Tour. À 13h, le rendez-vous de Richard Virenc, le consultant d'Europe 1. L'étape du jour dans le 18-20 et le Club Tour tous les soirs. Commençons ce matin avec un homme, un Français, un Breton, devrais-je dire, membre de l'équipe Arkéa Samsic. Très heureux de voir le Tour partir de chez lui à Brest demain. Warren Barguil, double vainqueur d'étape en 2017, il a répondu aux questions de notre spécialiste Axel May. Warren Barguil, invité du tête-à-tête Europe Matin.
Warren Barguil, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. On avait envie de vous entendre parce que le Tour de France s'élance demain, mais surtout il s'élance de Bretagne. Et la Bretagne, c'est chez vous. Hein. 4 étapes 100% bretonnes. Vous allez même passer, Warren Barguil, devant chez vous. Ça sera lundi, je crois.
Bah oui, c'est fou. Là, je suis en train de feuilleter le book justement pour arriver à la page du départ de chez moi. Donc, c'est les routes que j'emprunte. J'emprunte tous les jours parce que je vais déposer mon fils chez la nounou qui habite de l'autre côté du pont. Et puis, je reviens le chercher le soir. Et aussi, pour l'entraînement, je passe dessus. Donc, c'est juste fou de se dire que la plus grande course au monde va passer juste à côté de chez moi. En plus, en Bretagne, il y a vraiment une culture du vélo. Les personnes connaissent tous les coureurs bretons, surtout. Parce qu'ils nous ont vus aussi évoluer sur les courses du coin en Bretagne. Il y a des mordus qui me suivent depuis que je suis cadet, quand j'ai commencé le vélo à aujourd'hui. Donc, c'est une belle histoire.
Le public aura accès au départ et aux arrivées à condition de présenter un pass sanitaire. Donc forcément, ça va être la grande fête populaire qu'on connaît.
Ah oui, c'est vrai que l'an passé, au mois de septembre, c'était un Tour de France un peu plus bizarre avec un peu moins de public. Et là, je pense qu'on va retrouver cette ferveur, même si là, il y a encore les enfants qui sont un peu à l'école. Au mois de juillet, c'est vrai qu'il y aura beaucoup plus de monde au bord des routes et ça va être un réel plaisir d'y être.
Quatrième fois que le Tour s'élance de Brest, 52, 74, 2008. À l'époque, vous étiez adolescent, vous vous en souvenez?
Je me rappelle bien, il faisait pas super beau au départ et ça va être peut-être la même demain. Et j'espère que la météo va changer et qu'on montre le beau soleil aussi qu'il y a sur notre belle région, la Bretagne.
Warren Barguil, le grand public vous a connu notamment lors du Tour de France 2017. Vous gagnez 2 étapes, vous êtes maillot à poids. Et il y a eu ce qu'on appelait la Wawa Mania qui s'est emparée du public. Vous le ressentez encore aujourd'hui, 4 ans plus tard?
Oui, bah forcément, quand on a gagné 2 étapes sur le Tour, ça reste gravé. On le sent toujours et je sais que je suis toujours attendu et j'espère chasser les étapes, de retrouver cet ADN d'être attaquant et pas de miser tout sur un général et que ça s'effondre malheureusement à cause d'une chute ou une blessure. C'est dommage. Donc là, c'est vrai que cette année, l'équipe a fait le choix de tout miser sur les victoires d'étape. Donc chaque jour, ça sera une classique pour nous quasiment.
Donc ça met de la pression sur vos épaules parce que ça veut dire, on vous a dit, Warren, il va falloir que tu lèves les bras d'ici la fin du tour.
Ouais, mais après, c'est moi qui me la mets tout seul, hein, la pression. Je suis pas une personne qui gagne souvent, mais quand je gagne, normalement, c'est des belles. Donc c'est sûr que ça serait bien de regagner ici sur le tour. C'est jamais facile. On est 184 coureurs au départ. Il y a très peu de prétendants. Il y a que 21 étapes. Donc il y a 21 chances. Déjà, on peut tirer les chronos, ça fait 2 en moins. Donc, ça fait 19, plus les Champs-Élysées, ça fait 18, plus les étapes de sprinter. Donc, ouais, ça fait environ 7 chances à peu près pour essayer d'aller gagner une étape.
Et je crois que j'ai lu que juste avant le week-end dernier, vous n'étiez pas certain de participer au tour parce que vous vous sentiez un peu fatigué.
Ouais, ben, j'avais pas des super sensations après le Dauphiné et après mon stage. Donc, c'était une période compliquée. Puis, je me suis beaucoup rassuré sur le championnat. Et j'ai pris du plaisir. Et pour moi, c'est très important de prendre du plaisir. Donc, quand je reprends du plaisir sur le vélo, ça va beaucoup mieux.
Les autres Français aujourd'hui, il n'y a pas Romain Bardet qui a déjà été 2 fois sur le podium du Tour de France. Il n'y a pas Thibaut Pinot qui est convalescent qui a aussi été sur le podium du Tour de France. Il y a Julien Alaphilippe, mais lui, il va sans doute viser davantage des étapes. Il y a Guillaume Martin, 11e du Tour de France. L'an dernier, c'était le meilleur Français. Ce n'est pas cette année qu'on aura un Français vainqueur du Tour de France.
Bah, je sais pas. Peut-être une belle surprise. On peut toujours espérer. Hein. On sait jamais. L'effet de course, le tour, c'est 3 semaines. Il peut se passer plein de choses. On peut être très bien en première semaine et être un peu à la dérive en 3e semaine. Et comme on a vu l'an passé, le tour, même jusque l'avant-dernière étape, avec le chrono, tout peut se perdre encore.
Oui, chrono, effectivement, du côté de Bordeaux et de Saint-Émilion, juste avant d'arriver sur les Champs-Élysées. L'an dernier, Pogacar, un jeune Slovène, s'est imposé devant un autre Slovène, Roglic. Vous avez votre petit trio de favoris?
Oui, moi j'ai mon favori, c'est Geraint Thomas.
Geraint Thomas, le Gallois, qui a déjà remporté le Tour.
Je pense qu'il il a retrouvé son très gros niveau qu'il avait en 2018 quand il a gagné le Tour. Et c'est un tracé bien à sa convenance, avec des étapes où il peut avoir des bordures, beaucoup de chronos. Et ouais, je pense que c'est lui le mieux armé pour gagner le Tour cette année.
Warren Barguil, on l'entend dans votre voix, il y a de la joie, vous avez souvent le sourire sur votre visage. Et pourtant, ce n'est pas un sport facile, hein, le cyclisme. Il peut pleuvoir, il peut neiger, il peut y avoir des chutes. Vous avez un enfant là, qui va bientôt avoir 2 ans, vous lui diriez plus tard tu seras cycliste, mon fils?
Bah, en fait, il me dira ce qu'il voudra faire. Et bah, moi, je n'ai jamais voulu être pro et puis ça s'est offert à moi comme ça. C'est comme ça qu'il faut le voir.
Warren Barguil, merci d'avoir été sur Europe 1 alors que demain vous serez sur les routes du Tour, 21 étapes, des milliers de kilomètres dans les jambes. On vous souhaite quoi? Bon tour, comme on dit.
Voilà, c'est ça, merci beaucoup et puis croisons les doigts pour cette édition.
Europe 1, Mathieu Béliard.
7h49, restez bien sur Europe 1 dans un tout petit instant, l'édito politique avec Nicolas Bétou, bien sûr, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Après leur empoignade publique mercredi dans les salons de l'Elysée, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti ont décidé de déjeuner ensemble. Objectif, envoyer une image de réconciliation.
Une image, oui, une image comme vous dites, parce que dans le fond, ces deux-là ne se supportent pas. Il y a entre eux une animosité mutuelle qui s'ajoute à l'antagonisme structurel qui oppose le plus souvent le ministre de l'Intérieur à celui de la justice. C'est presque banal, donc. Mais ce qu'il est moins, c'est cet affichage public. C'est aussi rare que la prise de bec entre Elisabeth Borne et Barbara Pompili, deux ministres en désaccord politique sur la réforme de l'assurance chômage.
Emmanuel Macron a d'ailleurs rappelé à l'ordre Barbara Pompili en demandant de la loyauté.
Mais ça ne règle pas la question de fond. Au lendemain du premier tour raté des régionales, la Macronie est en plein désarroi. Le chef de l'État a fait mine de ne pas s'intéresser au sujet, de rester à bonne distance de La République En Marche. Résultat, à la veille du second tour, ça part dans tous les sens.
Dans tous les sens. Vous voulez dire vers la gauche ou vers la droite?
Exactement, en tout cas les deux. L'aile gauche de la majorité présidentielle pousse par exemple à délaisser la liste La République En Marche pour voter plutôt PS dans les régions où le parti est en tête, la Bourgogne par exemple. Sur l'aile droite, on s'interroge au contraire sur les risques que fait courir le maintien de la liste En Marche dans les cas où c'est une gauche dure qui peut gagner une région. C'est le cas dans les Pays de la Loire, avec le maintien de François de Rugy, liste majorité présidentielle, face à une gauche unie autour d'un pivot vert insoumis. Et c'est le cas en Île-de-France, où l'ambiance est très tendue.
Valérie Pécresse fait face à l'alliance de l'insoumise Clémentine Autain, du PS, derrière le vert Julien Bayou.
Oui, alors ce n'est pas parce que le leader d'Europe Écologie Les Verts a mis une cravate et un costume depuis qu'il est en campagne que ses idées sont moins jusqu'au boutiste. Manuel Valls, l'ancien Premier ministre socialiste, Jean-Paul Huchon aussi, qui fut pendant 17 ans tout de même le président socialiste de la région Île-de-France, ne s'y sont pas trompés. Pour eux, vert plus France insoumise, c'est infréquentables. Ils ont donc solennellement appelé à voter Pécresse contre la gauche et même contre la liste La République En Marche. C'est du jamais vu. Et c'est en fait une leçon de vote républicain infligée à la Macronie. Tout ça laissera évidemment des traces. Et désormais, le seul qui peut les effacer ou en atténuer la portée, c'est Emmanuel Macron en personne. Le chef de l'État ne pourra pas éviter de sortir de son silence pour tirer les enseignements de ces élections ratées et tenter de ramener un peu de raison dans sa majorité. Et ce sera tout le positionnement de la fin du quinquennat qui se jouera alors.
Votre édito politique, tous les matins à 7h50. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Et tous les matins, juste avant 8h, Nicolas Canteloup conseille à sa façon l'invité politique de la matinale à 8h15. Vous l'avez noté, Sonia Mabrouk reçoit Marlène Schiappa, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargée de la citoyenneté. Et c'est Éric Dupond-Moretti qui voulait lui dire un mot.
Bonjour Monsieur Béliard, Monsieur Bétou, Monsieur Cabrol, et bonjour à Marlène Schiappa qui travaille, vous le savez, avec mon mon ami et collègue, ça, c'est mal. Gérald Darmanin. Oh, je vous entends ricaner, mais j'avais une question. Madame Schiappa, pourriez-vous m'indiquer l'adresse personnelle de M. Darmanin afin que, comme l'a dit M. Bétou, je puisse déjeuner avec lui? Non, bah écoutez, nous nous sommes réconciliés publiquement, vous le savez, après que j'ai failli claquer sa petite queue, claquer la porte du Conseil des ministres suite à un emportement, rassurez-vous, vite contenu. Mais je n'ai pas eu l'occasion, c'est vrai, de le voir personnellement, entre quatre yeux, en un contre un, sans caméra et torse nu, pour me réconcilier avec lui. Voilà, pour lui dire que je suis prêt désormais à disposer, à lui prêter main forte au sein du gouvernement et à prendre mon bâton de pèlerin et exploser le plafond de verre qu'a rencontré le gouvernement au cours des régionales. Voilà, donc si vous le voyez, dites-lui que je cherche activement.
C'est bien de faire le premier pas. Merci beaucoup Nicolas Canteloup, qui conseille à sa façon l'invité politique de la matinale tous les jours. Alors Sonia Mabrouk reçoit Marlène Schiappa à 8h15 et Nicolas Canteloup, on vous retrouve à 8h45 tout à l'heure bien sûr pour la revue de presque. Bon réveil à tous. Europe 1. 7h57, alors oui, rebonjour Laurent Cabrol bien sûr, ouais. Simplement d'un mot parce que j'y pensais avec Warren Barguil, on a quand même beaucoup parlé du Tour de France, du départ du Tour de France, et je sens que vous allez nous en parler aussi, n'oublions pas l'Euro de football, hein. Il n'y a pas de match hier, pas de match ce soir, mais on retrouve tout de même le journal de l'Euro à 8h30 et on va faire le point sur l'infirmerie des Bleus parce que là ça commence à tourner au casse-tête pour Didier Deschamps avec les blessés qui... Allez, je salue Stéphane Bern qui tombe comme à Gravelotte, si j'ose dire. 7h57. Ça, c'est pour vous passer la main, mon cher Laurent Cabrol.
Ouais, Gravelotte aussi, il va tomber la pluie sur les côtes de la Manche aujourd'hui. Hein. J'en profite pour dire une petite parenthèse, pour donner une parenthèse. C'est vrai que c'est pas folichon pour le départ du Tour, hein, mais ça va s'arranger quand même dimanche. En ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, bon, c'est simple. Hein, il suffit d'imaginer la France. Les deux tiers sud sont sous un temps globalement ensoleillé, très globalement. C'est-à-dire, il y a des passages nuageux, mais l'impression sera quand même agréable. En fait, ce sont les côtes de la Manche qui déjà commencent à être sous l'emprise d'une perturbation. Il y a des petites pluies, il y en a vers Deauville, Le Touquet, Cherbourg, etc. Donc les côtes de la Manche. Et ensuite, dans le courant de l'après-midi et de la soirée, surtout de la soirée, les pluies vont gagner les Pays de la Loire, l'Orléanais, limite du Berry, la région parisienne sera touchée, la Champagne et les Ardennes. Et là, dans toutes ces contrées, eh bien, la journée se terminera sous un ciel souvent gris et souvent pluvieux. Pour demain, les températures aujourd'hui sont fraîches. Hein, sont 17 et 22 sur la moitié nord, 25-29 sur la moitié sud. Bon, sur la moitié nord, ce sont vraiment des températures très très basses par rapport à ce que nous connaissons habituellement à cette saison. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, pour demain samedi. Alors demain samedi, eh bien c'est un petit peu la même chose puisque la zone perturbée, la zone de pluie va gagner quasiment toute la moitié nord, alors qu'il continuera de faire relativement beau sur la moitié sud. Et puis dimanche, jour des élections, ça va se gâter à peu près partout, sauf sur l'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne, la Franche-Comté, où nous aurons quelques rayons de soleil, et puis sauf sur le bassin méditerranéen, bien sûr, où il fera beau. Mais partout ailleurs, ce sera nuageux, avec des averses, avec parfois des giboulées, avec même des orages qui vont réapparaître du Midi-Pyrénées jusque pratiquement à la région du centre. Vous voyez que ce sera vraiment une journée mi-figue, mi-raisin, mais côté... enfin, je ne sais pas ce que vous aimez pas. Si vous n'aimez pas les figues, côté figue, voilà.
J'aime bien les deux, c'est embêtant.
Oui, c'est embêtant. Et puis côté température, ça montre un tout petit poil, hein, 23-26. Mais enfin, en ce moment, disons le sky. Hein.
Bon, le froid et éventuellement de la pluie. Vous faites votre devoir de citoyen, vous allez vite voter, vous rentrez. Puis de 19h30 à 22h, vous écoutez la spéciale de Wendy Bouchard, évidemment, sur Europe 1. Merci mon cher Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. On écoute Le Monde Changer.